Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, à Vivement les femmes, nous allons parler de parents en situation de handicap. Les parents en situation de handicap nous semblent invisibles, or ils existent. Quelle est la teneur de leurs défis? Qui peut les aider? Alors, autour de la table pour discuter de la parentalité en situation de handicap, Evelina Pitouch, ergothérapeute et chercheure, Janou Radia, porteuse du dossier parents en situation de handicap au sein de l'organisme Execo, et Marjorie Onos, maman en fauteuil roulant d'un adolescent et psychologue. Bonjour Marjorie Onos.
Bonjour.
Alors, c'est la deuxième fois que je te reçois dans l'émission. On avait déjà fait l'émission « Mes seins et mon utérus comptent » pour justement les services en milieu hospitalier. Alors, merci d'être avec nous une deuxième fois. Marjorie Onos, qui est psychologue et chercheure spécialisée en parentalité chez des parents en situation de handicap et également maman en fauteuil roulant. Bonjour Evelina Pitouch.
Bonjour Marjorie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Evelina qui est avec nous pour la première fois, chercheure en poste doctoral et ergothérapeute.
Exactement. Merci beaucoup de l'invitation.
Ça fait plaisir. Alors bonjour Janou Radia.
Bonjour.
Donc, Janou aussi la première fois avec nous. Mm-hmm. Donc, agente de défense collective des droits, porteuse du dossier parents en situation de handicap au sein de l'organisme Execo. Oui. Alors, mesdames, bienvenue à Vivement les femmes.
Merci.
Donc, ma première question sera tout de suite pour Evelina. Alors, tu es ergothérapeute et chercheuse postdoctorale. Alors, dis-nous quel est ton champ d'expertise.
Oui, bien, merci beaucoup, Marjorie. En fait, moi, je suis en ce moment chercheure postdoctorale à l'Université de Toronto sur le campus Scarborough. Et mes travaux de recherche actuellement se centrent autour de la santé périnatale, mm-hmm. la périnatalité, chez les femmes en situation de handicap et aussi la parentalité en situation de handicap, donc la maternité en situation de handicap chez les femmes concernées par, par le désir de parentalité ou qui sont déjà mamans.
Oui, oui. Donc, on va aller un peu plus loin dans le sujet parce que c'est un sujet tellement important et ce serait bien que les auditeurs, auditrices aussi connaissent, puissent comprendre aussi toute la problématique autour de ce sujet. Donc, Janou, tu es responsable du volet défense des droits en parentalité pour l'organisme Execo. Puis, quelle est la mission de l'organisme? Et puis aussi, j'aimerais savoir ton rôle, tes fonctions.
Oui, bien, on est un organisme en défense collective des droits pour les personnes qui ont une déficience motrice. Donc, on a plusieurs volets qui s'adressent aux personnes qui ont une déficience motrice, allant du logement jusqu'aux santé et services sociaux, accessibilité universelle. Puis depuis 2018, on se rendait compte qu'il y avait des parents des personnes en situation de handicap qui devenaient parents et qui faisaient face à des obstacles supplémentaires. Donc, on fait beaucoup de recherches actuellement pour documenter. Bien, on s'allie à des chercheurs-chercheuses
oui.
Pour documenter tout ça. Puis aussi, on essaie de rassembler un peu les vécus des parents pour faire des revendications puis porter ces revendications-là auprès des instances gouvernementales ou des instances publiques qui influencent souvent les programmes puis les services qu'on a.
OK, d'accord. On va aller un peu plus loin aussi au niveau des services tout à l'heure. Donc finalement, Marjorie Onos, qui est la mère d'un jeune adolescent, tu es en fauteuil roulant depuis que ton fils a 16 mois. Donc, pour le bien de l'auditoire, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire?
Oui, mais en fait, c'est ça, Thomas avait 16 mois. Je retournais de chez mes parents dans les Laurentides pour aller à Montréal et j'ai eu un accident de voiture. Et l'accident de voiture a fait que j'ai eu une blessure médulaire. Donc, en quelques secondes, je me suis retrouvée paralysée en bas des aisselles jusqu'aux orteils. La première personne à qui j'ai pensé naturellement dans l'accident, c'est à Thomas et à comment est-ce que je serais capable d'être là pour lui puis de pouvoir continuer à m'occuper de lui, en fait. Mm-hmm. Donc ça a changé un peu notre vie, mais on s'est vite ajusté parce que l'amour entre nous est très fort et ouais. que c'était très important.
Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, c'est ça, tu étais déjà maman. Donc, alors, c'était pour la poursuite de ton rôle en tant que mère qui est venue avec une situation de handicap.
Tout à fait. Puis, l'ironie du sort, en fait, c'est que moi, ça faisait déjà 15 ans que je travaillais dans le milieu de la parentalité, mais auprès de parents qui ont une déficience intellectuelle.
Okay.
Donc, tout le sentiment ou la façon de faire, la réadaptation... le besoin de soutien ou de la créativité qu'on a besoin en tant que parent en situation de handicap. J'étais un petit peu comme à l'affût de ça ou mm-hmm. au courant de ça par ma profession et les recherches que j'avais déjà effectuées.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même, c'est stigmatisé, hein? Donc alors... quelle que soit la situation de handicap, il y a les degrés différentes, les degrés différents, je veux dire, mais quand même, il y a une stigmatisation qui est là quand même.
Tout à fait. Ben, en fait, dans les recherches, on voit qu'il y a une surreprésentation des parents en situation de handicap, entre autres dans la protection de la jeunesse. Mm-hmm. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas cette conceptualisation de comment est-ce qu'on peut être un parent quand on n'a pas toutes les habiletés motrices, par exemple, oui. ou on n'a pas toutes les habiletés intellectuelles.
Mm-hmm. OK. Puis, j'aimerais ça vous poser la question, comme quelles sont les principales barrières qui se dressent devant le parent, disons, en fauteuil roulant? Parce que, dépendant du handicap, les barrières sont différentes, mais en fauteuil roulant, c'est quoi les barrières des difficultés?
Oui. Mais en fait, les espaces communs mm-hmm. sont pour la famille sont généralement pas adaptés. Moi, combien de fois je me suis retrouvée à devoir aller à l'aréna pour voir mon fils jouer au hockey, mm-hmm. puis la place handicapée n'était pas assez large ou elle n'était pas déneigée parce qu'on pensait pas qu'une personne en situation de handicap pouvait venir regarder un enfant.
Ouais.
La piscine, on n'a pas les espaces pour se changer dans mm-hmm. la piscine. Les cabines assez larges pour que je rentre moi avec mon fauteuil, mais aussi avec un enfant de 2 oui. ans qui peut bouger. J'ai pas de table où je peux le mettre, où je peux le longer.
Mm-hmm.
Alors, c'est pas des espaces qui sont vus ou conçus
oui.
pour un parent qui a une situation de handicap.
Mm-hmm. Ouais. Puis... Janou, est-ce que ce sont des requêtes que tu as au sein de l'organisme Execo?
Oui, tout à fait, mais il faut dire aussi que c'est la majorité des espaces qui sont pas accessibles. Donc, les CPE aussi, on pense au milieu de garde, on pense au parc, on pense aux transports adaptés aussi, mmh. aux écoles. Donc oui, c'est vraiment des revendications que les parents chez Execo ont.
Mm-hmm, mm-hmm. Puis comment que ça fonctionne lorsque il y a une revendication qui est faite? Est-ce qu'il y a un processus pour arriver au moins à le rendre public ou?
Ben c'est sûr que la défense collective des droits, c'est vraiment justement un processus à long terme.
C'est ça, ouais.
Donc dépendant de nos demandes aussi. On a des stratégies différentes, mm-hmm. fait que ça dépend qui on cible, ça dépend est-ce qu'on veut faire plus des apparitions dans les médias sociaux, est-ce mm-hmm. qu'on veut faire des rencontres directement avec les instances publiques, gouvernementales, les CIUSSS. Fait que c'est plusieurs stratégies qu'on utilise. On fait aussi des mobilisations de type plus manifestation ou action.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment varié dépendant de nos cibles.
OK. Je poursuis ma discussion avec Marjorie Onos, psychologue et chercheure spécialisée en parentalité chez des parents en situation de handicap et maman en fauteuil roulant. avec Evelyne Pitouch, chercheure postdoctorale et ergothérapeute, Janou Radia, agente de défense collective des droits, porteuse du dossier parents en situation de handicap au sein de l'organisme Execo. Donc, maintenant, Marjorie, j'aimerais te poser la question, quelle est l'étape du développement de l'enfant qui représente une plus grande difficulté lorsqu'on est en fauteuil roulant?
Bien, moi, ça a été l'étape des 2 ans, mais je devrais dire que ça a été aussi l'étape des 2, des 3, des 4 ans.
Ouais.
C'est des enfants qui bougent beaucoup. Mm-hmm. Dans notre situation à nous, c'était aussi un peu particulier parce que Thomas avait... Donc, 16 mois. Pendant 6 mois, il ne m'a pas vu, il n'a pas vécu avec moi. Okay. On se voyait tous les jours. Donc ça, je pense que ça a été aussi une des réactions pour laquelle, quand je suis retournée à la maison, il était très actif et il testait un petit peu peut-être plus les limites. Mm-hmm. Puisque là, maman était revenue, mais là, mamie était toujours là, qui était celle qui s'en était occupée.
Ouais.
Donc, c'est comment est-ce qu'on a navigué un peu ce retour à la maison. Ça a été un peu difficile. Donc, c'est sûr que parce que les soins à ces âges-là, c'est des soins qui sont plus physiques,
ouais.
Ben ça prend beaucoup plus d'énergie. À la fin d'une journée, j'étais très fatiguée. Changer une couche, il faut avoir l'équipement adapté parce que sinon, ça fait mal comme dans le dos, ça fait mal dans les épaules. Mmh. Alors ça, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles. Mais en même temps, il y a une façon de développer le lien parental avec son enfant qui fait qu'on peut tourner ça comme un jeu. Je me souviens d'une situation particulière où Thomas ne voulait pas aller dans le bain et il s'était caché derrière, sous une table, dans un coin.
Oui.
Et puis là, je ne savais pas trop comment faire. Puis j'ai tourné ça comme un jeu. J'ai sorti mes bulles. Puis je l'ai attiré dans le bain en disant « Oh, wow, on fait des bulles! C'est super amusant! » Et puis alors, j'ai réussi à l'attirer. Mm-hmm. Donc, je trouve en quelque part que mon handicap m'a rendue une meilleure maman. Parce que j'aurais probablement pas fait ça.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais.
Puis quand je lisais aussi, j'avais lu que même si ta maman était là pour t'aider, mais c'était toi la maman. Donc, elle exécutait un peu ce que tu voulais faire avec ton enfant.
Oui.
Evelina, maintenant, j'aimerais savoir comment l'ergothérapeute vient aplanir ces difficultés-là.
C'est une excellente question. En fait, les ergothérapeutes, nous, notre focus, c'est vraiment quelles sont les activités au quotidien que les personnes jugent importantes pour elles. Donc, déjà, ça, je pense, c'est vraiment ce qui nous distingue et nous définit de d'autres professionnels de la santé. Donc, maintenant, les ergothérapeutes vont questionner les parents, c'est-à-dire, par exemple, quelles sont les activités qu'ils ou elles souhaitent faire avec leurs enfants, comme par exemple Marjorie.
Ouais.
C'était essayer de départager un peu quelles sont les tâches que le parent peut assumer, lesquelles vont être déléguées, par exemple, à un coparent, un grand-parent, par exemple.
Mm-hmm.
D'identifier quelles sont les difficultés au quotidien, puis quelles solutions très concrètes est-ce qu'on peut apporter mm-hmm. pour venir, comme tu dis, aplanir ces difficultés. Comme par exemple, ça peut être des équipements adaptés,
oui.
ça peut être de revoir l'environnement à la maison aussi, de réorganiser comment les activités sont faites avec son enfant, afin que justement ça réponde aux besoins du parent, aux besoins de l'enfant, au niveau d'énergie du parent,
mm-hmm.
à la routine que la famille veut installer aussi oui. avec les autres membres de la famille. Donc, c'est tout ça qu'on regarde finalement. C'est le parent dans son environnement mm-hmm. et les occupations qu'il doit réaliser dans son milieu de vie.
Mm-hmm. OK. Donc, ce qui veut dire, comme Marjorie, lorsqu'elle est arrivée chez elle, il fallait comme réadapter la maison au complet. Donc, c'est là que ton rôle rentre en jeu.
Exactement. Puis là, je vais apporter peut-être une nuance intéressante ici.
Oui.
C'est que dans le cadre de mes travaux de recherche, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu deux solitudes. C'est-à-dire que des professionnels qui sont formés, compétents pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap. Et de l'autre côté, on a des professionnels formés, compétents pour intervenir en périnatalité, en parentalité. Mais c'est encore très rare que ces deux solitudes-là vont travailler ensemble,
okay.
si vous voyez ce que je veux dire. Donc,
mm-hmm.
c'est-à-dire d'avoir des professionnels formés, compétents pour intervenir auprès de parents en situation de handicap Il y a quelques beaux exemples de services qui existent au Québec, mais à mon avis, c'est encore en émergence, c'est encore rare qu'on a vraiment accès à ces services-là mm-hmm. adaptés, pensés pour les parents en situation de handicap.
OK, OK. Puis Marjorie, toi, l'aide que tu as eue tout de suite, ça a été quoi comme aide pour justement t'adapter dans ta nouvelle vie?
Oui, bien en fait, les ergothérapeutes, je pense que j'en ai eu 6 dans mon parcours de okay. réadaptation. Mm-hmm. Chacun avec une genre d'objectif particulier. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il y en avait un ou une qui s'occupait de l'adaptation du domicile, qui est quand même important puisque j'ai besoin de vaquer à mes occupations. Mais il y avait des services de la clinique Parents Plus, donc une ergothérapeute de cette clinique-là, qui est une clinique spécialisée pour offrir des soutiens aux parents en situation de handicap. Alors, elles ont regardé le matériel adapté que j'avais besoin. Donc, une table allongée qu'on pouvait accrocher au mur pour que je puisse comme changer Thomas. Ça a été un des outils qu'on a comme découvert, ou encore une poussette adaptée qu'on a pu accrocher à ma chaise pour que je puisse comme aller me promener avec Thomas puis l'avoir dans la poussette. Mm-hmm. Donc, entre autres, cette équipe-là de la clinique Parents Plus était... très utile.
Oui, t'es présente. Puis ce que je voulais savoir aussi, parce que toi, c'est un accident de la route.
Ouais.
Donc, ça implique la SAC. Est-ce que il y a une aide qui vient aussi de la SAC pour dire, bon, ben c'est suite à l'accident et tout, est-ce que ça a dû être facile?
Alors, oui, la SAC, on pourrait dédier une émission au complet, je pense.
Ah ouais.
Mm-hmm. D'un côté, je suis chanceuse que je suis sous la SAC parce mm-hmm. qu'on a quand même beaucoup de bénéfices, mais il reste que même à l'intérieur de leur politique, on ne parle pas de parentalité. Mm-hmm. Et oui, ils ont payé pour les services à la clinique Parents Plus, par exemple, ou ils ont payé pour les équipements adaptés, mm-hmm. Mais c'est tout. Ils n'ont pas nécessairement offert de l'aide, même à Thomas, qui réagissait au niveau du comportement. Mmh. Donc ça a été des batailles à avoir. Puis quand j'ai voulu avoir du soutien au niveau de la parentalité, mais plus Thomas grandissait, c'est-à-dire que la clinique Parents Plus allait jusqu'à un enfant qui a 2 ans. Mais Thomas, il y a eu 3 ans, 4 ans, 5 ouais. ans, où ça a été aussi avec des défis particuliers. Et là, je me retrouvais sans soutien, sans aide, à moi, à un petit peu comme internaliser et devenir ergothérapeute mm-hmm. Pour moi-même, pour mon fils, pour pouvoir trouver ces solutions.
Oui, oui. Puis, Janou, est-ce que, dans un cas comme ça, est-ce qu'un organisme comme Execo peut accompagner la personne dans ses revendications au niveau de la SAC?
Bien, c'est sûr que nous, on fait de la défense collective des droits. Donc, c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui veut faire des démarches individuelles, on ne va pas le revirer de bord, mais ce n'est oui. pas nécessairement notre mission.
D'accord.
Et aussi, bien qu'on travaille avec toutes sortes de parents qui ont toutes sortes de déficiences motrices, il y a des organismes qui sont beaucoup plus spécialisés pour les personnes qui ont des lésions médulaires.
Ouais.
Donc, souvent, les accidents de la
route,
SAQ, ouais. c'est plus ça.
Mm-hmm.
Nous, on a beaucoup de parents qui ont des déficiences motrices depuis l'enfance ou des maladies dégénératives. Donc, c'est ça. Il y a quand même une différence, mais on peut... c'est sûr qu'on refuse personne. Là.
Moi, je comprends.
Plus on est, et ouais. plus les revendications.
Ou voilà. aussi la référer à ce moment-là.
Oui, ouais. Exact.
D'accord, merci. Au micro avec Marjorie Onos, psychologue et chercheure spécialisée en parentalité chez des parents en situation de handicap et également maman en fauteuil roulant. Evelina Pitouch, chercheure postdoctorale et ergothérapeute avec Janou Radia, agente de défense collective des droits, porteuse du dossier parents en situation de handicap au sein de l'organisme. Donc, avec ce que j'ai entendu depuis qu'on a commencé l'émission, donc finalement, le parent en fauteuil roulant, Marjorie, est en perpétuel combat.
Perpétuel combat et toujours à essayer de penser comment est-ce que je vais faire telle tâche, telle action.
Mm-hmm.
Oui.
C'est ça. Tout au long aussi de l'évolution de l'enfant.
Oui, exactement, parce qu'il change. Hein?
Oui.
Et il change rapidement quand c'est à petite enfance. Alors, il faut vite se retourner de bord. Comme les bulles, pour l'attirer dans le bain, ça a peut-être duré quelques fois.
Oui.
Puis après, il fallait qu'on change de technique et de procédure. Donc, donc c'est ça. La même chose pour... T'sais, ma mère faisait les actions dans le bain, c'est-à-dire que c'est souvent moi qui disais « Bon, là, maman, Thomas est allé dans le parc, il y a du sable dans les cheveux, il faudrait lui laver les cheveux. »
Oui.
Donc, Thomas savait que c'était moi qui étais en charge, même si c'était mamie qui faisait les actions. Bon, mais une fois que Thomas a été assez grand pour se tenir à mes barres d'appui dans la baignoire, mais là, on n'avait plus besoin de mamie parce que la raison qu'on avait besoin de mamie, c'est qu'avec du savon, moi qui ai besoin de me tenir pour mon équilibre, c'était difficile et non sécuritaire.
Ouais.
Mais une fois que ça a été sécuritaire, ben là, on change de technique et soudainement, ben peut-être qu'on a besoin de moins d'aide dans un secteur et plus d'aide dans un autre.
Mm-hmm. Thomas avait 16 mois quand c'est arrivé. À quel moment, sûrement dès le début, mais il était quand même jeune, qu'il a pris vraiment... conscient du fait que tu étais en fauteuil roulant, que c'était plus la même maman qu'il avait.
En fait, lui, il se souvient même plus de la maman qui marchait.
OK.
Souvent, il faut que je lui montre des photos. Puis quand il était plus jeune, je lui montrais des photos de moi qui lui apprenais à marcher.
OK.
Puis il disait, mais maman, t'étais debout. Mais oui. Moi aussi, je marchais et c'est comme ça que j'ai pu comme te montrer.
Mm-hmm.
On a une photo de notre famille quand je suis enceinte. Alors là aussi, il me voyait, mais là, t'es plus grande que papy. Alors, ben oui, parce que si j'étais debout, je serais plus grande.
Oui, oui.
Souvent, Thomas, il me disait, ah, oh, je suis plus grande que toi parce que, bon, lui était debout. Et puis, donc, on s'ajuste avec l'âge et puis... C'est ça. Lui, il connaît sa maman en chaise roulante et
c'est
on
ça.
Fait les activités.
Ouais. Donc, il a évolué comme ça avec
tout à fait.
Maman.
Si je peux me permettre, les enfants, que ça soit suite à un accident ou que ça soit une déficience physique de naissance des parents, ils s'adaptent super bien puis ils ont vraiment une capacité de comprendre, même si, disons, que dans un scénario où il y a deux parents, donc un qui est mobile et un qui est... qui a une déficience motrice, ben il peut vraiment s'adapter super bien à l'un ou l'autre, puis ils comprennent dès le plus jeune âge.
Le plus jeune âge. Finalement, ce sont les adultes qui ont plutôt un regard différent là sur toute la problématique, parce que mais le jeune il évolue avec le parent. Ouais. Mmh. Evelina, est-ce que dans tes recherches, c'est ce que tu constates aussi?
Oui, ben effectivement, comme dans mes travaux, par exemple, au doctorat, j'étais très intéressée de voir comment ça se passait à la maison, à domicile, chez les parents qui avaient une déficience physique. Puis j'ai vu des beaux exemples, comme Janou vient de mentionner, justement. Par exemple, c'était le temps de changer la couche et puis bébé va lui-même chercher un bébé ambulant. Donc, il va lui-même chercher son petit matelas allongé, sa couche pour venir faciliter la tâche à son parent. Donc oui, effectivement, les enfants s'adaptent, mais il faut donner les outils aux parents puis aux enfants de s'adapter aussi. Donc, c'est sûr que si on reste dans ce contexte-là qui peut être traumatique, comme par exemple après un accident, bien, on va peut-être pas offrir tous les outils que les familles ont besoin. Donc, il faut vraiment prévoir tout un réseau de soutien, d'accompagnement qui vont permettre à chaque famille de vraiment grandir ensemble, de s'adapter puis d'être créatif aussi.
Ah ouais. Incroyable. Marjorie, tu as dit, à un moment donné, j'ai lu ça dans la recherche, que tu avais réalisé ton privilège, c'est-à-dire d'être blanche, un niveau d'éducation supérieur et un bon statut économique. Et comme tu travailles aussi avec des clients qui sont beaucoup plus en survie, si je peux dire, le défi est grand. Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que ça m'a interpellée.
Oui, mais en fait, dès que j'ai eu mon accident, j'étais à l'hôpital encore et là, je me disais, ah, la DPJ, c'est sûr, elle va venir. Elle va cogner à ma porte de l'hôpital.
Oui.
Et il va falloir que je justifie ou que je leur dise que mon fils est en sécurité et voici comment. Alors, la nuit, je me réveillais puis là, je pensais à toutes les choses qui pouvaient comme poser problématique ou inquiétude et je me faisais des plans d'intervention.
Mm-hmm.
Et ce que j'ai réalisé, c'est que, ben en fait, j'attendais qu'ils cognent, mais ils sont jamais venus. Alors que moi, dans ma pratique en tant que psychologue, la DPJ, c'était quotidiennement, je faisais affaire avec eux, mm-hmm. puisque je devais comme accompagner des parents en situation de handicap, qui a un handicap intellectuel. Et là, j'ai réalisé, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, c'était différent? Et c'est là où j'ai vu que, ben, je suis blanche, j'avais un doctorat, ouais. je travaillais dans le milieu, donc je connaissais les services de santé.
Mm-hmm.
Et là, je pouvais naviguer de façon différente, j'avais un bon réseau de soutien et surtout, j'avais ma capacité à utiliser la recherche, mais aussi toutes mes connaissances pratiques et cliniques mm-hmm. pour discuter. Alors, il n'y a jamais personne qui est allé plus loin que ça.
Ouais.
Ils sont juste passés là-dessus. Alors que les clientes que je connais, avec qui je travaillais, se retrouvaient souvent dans des milieux pauvres,
mm-hmm.
Donc avec moins de ressources et donc de plus grandes difficultés donc, et plus de jugements aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis l'intervention de la DPJ, Janou, est-ce que c'est quelque chose que, aussi, ce sont des dossiers que vous travaillez?
Oui. C'est quelque chose qui est très présent, autant en tant que crainte que dans les faits. Il y a même plusieurs personnes qui s'empêchent d'élargir leur famille ou tout simplement d'avoir un enfant,
mm-hmm.
En sachant que c'est pas rare que la DPJ intervient dès la naissance du bébé oui. ou même avant ou peu de temps après. Puis justement, on s'est rendu compte, on a créé une table de concertation chez Execo. On s'est rendu compte que c'est un enjeu qui touche non seulement la déficience motrice, mais aussi tous les types de déficiences ou limitations.
Okay. Oui, merci.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Evelina, tout à l'heure, on avait parlé de discrimination et puis dans les recherches que tu as faites, il y a ça aussi. Donc, pourrais-tu nous en parler?
Oui, bien sûr. Donc, encore une étude qu'on a réalisée lorsque j'étais candidate au doctorat à l'Université de Montréal en sciences de la réadaptation. C'est une étude à laquelle j'ai eu le plaisir de travailler avec Marjorie. Mm-hmm. Puis aussi, on avait la participation de Execo, de la Clinique Parents Plus, des co-chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université de Sherbrooke. Je salue d'ailleurs ma directrice de thèse, professeure mm-hmm. Carolina Bottari, qui a dirigé cette étude. Et puis, l'idée, en fait, de ce projet de recherche, c'était de comprendre, de documenter quels étaient les besoins des parents qui avaient une déficience physique, précisément une déficience neurologique, d'essayer de voir c'était quoi les formes de soutien qui étaient disponibles pour eux et quelles solutions est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer de mieux répondre peut-être à certains besoins qui sont peu desservis actuellement dans l'offre de services.
Mm-hmm.
On a réalisé des groupes de discussion. Donc, au final, c'est 35 participants qu'on a interrogés, donc différents groupes de participants, à la fois des parents en situation de handicap, leurs proches. On a interrogé d'autres organisations communautaires, d'autres chercheurs qui s'intéressent à la parentalité en situation de handicap et aussi des cliniciens en réadaptation pour faire de la lumière sur cette grande question qui nous intéresse beaucoup. Au final de cette recherche, on a comme ressorti cinq grands constats.
Oui.
Le premier, c'est, puis on en a discuté un peu plus tôt dans le début de l'émission, le besoin d'avoir une reconnaissance sociale du rôle de parent en situation de handicap. Mmh. Et ici, peut-être pour expliquer pour l'auditoire, c'est, je pense encore, dans l'imaginaire collectif, il est beaucoup plus facile de s'imaginer une personne en situation de handicap recevoir des soins que d'en donner. Mm-hmm. Comme par exemple, lorsqu'on est parent, on donne des soins à une autre personne qui dépend de nous. Bien sûr, être parent, c'est beaucoup plus que de donner des soins, mais je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est encore plus facile de concevoir qu'une personne en situation de handicap doit recevoir plutôt que de donner.
Oui.
Premier constat qui ressort de ce projet. Le deuxième, c'est qu'au niveau des politiques publiques, quand on commence à faire l'examen de particulièrement les politiques publiques au Québec, mm-hmm. puis on sait que c'est un milieu là, favorable pour ce qui est des politiques publiques familiales, mais quand on creuse un peu plus, il n'y a pas grand-chose qui est spécifique aux parents en situation de handicap, et là, c'est là où le bas blesse finalement. Il n'y a pas d'allocation financière, par exemple, qui est spécifique aux parents en situation de handicap. Donc, bref, toute cette représentation un peu plus publique, légale, ben on la retrouve pas dans les politiques publiques. Une portée plus grande là, au niveau des services publics. Donc, oui, il y a des choses qui existent, qu'on a nommées tout à l'heure, comme par exemple la clinique Parents Plus. Les services actuellement sont organisés pour couvrir une certaine période. Mm-hmm. Mais comme Marjorie l'a souligné, il y a d'autres besoins. Plus l'enfant grandit, oui. Le parent lui-même va peut-être avoir d'autres besoins au cours de sa vie comme parent aussi. Donc, finalement, c'est d'assurer une continuité dans l'offre de services. Et en ce moment, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de bris de services. Donc, les parents, on l'a dit tout à l'heure, c'est le parcours du combattant pour essayer d'avoir finalement du soutien tout au long de sa vie comme parent, autant oui. pour soi-même que pour son enfant. Puis finalement, c'est de prendre en compte une perspective très globale, donc c'est-à-dire une perspective familiale, de considérer autant les besoins du parent, de son enfant, mm-hmm. de l'ensemble de la famille finalement, parce que alors que l'offre de service, elle est en ce moment plutôt morcelée, donc soit oui. organisée vers l'adulte, soit organisée vers l'enfant, vers la pédiatrie, mm-hmm. mais rarement est-ce que finalement ça va communiquer très bien ensemble. Puis comme Janou et Marjorie l'ont mentionné aussi, tous les enjeux entourant l'accessibilité universelle.
Oui.
Mais ça, c'est préoccupant, mais c'est aussi des obstacles qui sont très importants là, dans le quotidien mm-hmm. des familles avec un parent en situation de handicap.
Oui, oui. Puis, c'est que moi, je me suis posé la question en préparant l'émission aussi, c'est que est-ce que j'avais déjà vu un parent en situation de handicap avec son bébé dans les bras, etc.? J'arrivais pas à avoir... une image. Donc, c'est comme si ces parents-là sont invisibles. Pourtant, ce sont des parents, ils ont des enfants, des jeunes enfants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est au niveau sécuritaire? Pourquoi on les voit pas plus avec leurs enfants?
C'est une très bonne observation, Marjorie, que je partage. Puis peut-être c'est mon côté optimiste, mais j'ai l'impression que les choses tendent à changer tranquillement. Okay. Par exemple, cette année encore, pour la Semaine québécoise des familles, parmi le matériel promotionnel, mm-hmm. on pouvait y deviner une maman en fauteuil roulant qui tenait un bébé. Puis ça, pour moi, c'était une des premières okay. images là, dans une campagne publicitaire à plus grand déploiement, mm-hmm. finalement, à destination des familles où on voyait un tel dessin. Donc, mais c'est vrai encore que trop souvent, quand on va voir des parents représentés, par exemple, à la télévision, des parents en situation de handicap, ça va être dans une perspective peut-être où ils ont des défis, où c'est difficile, où ils ont beaucoup d'obstacles, versus on va moins peut-être voir le côté plus positif ou créatif, où il y a des solutions qui sont mises en place, par exemple, où la famille se porte bien, même ouais. s'il y a un parent en situation de handicap mm-hmm. Au sein de la famille. Pourquoi cette invisibilisation? C'est difficile à dire. Les choses changent tranquillement, mais pourtant, les chiffres sont là. C'est quand on mm-hmm. regarde, par exemple, en Ontario, les études démontrent que c'est une femme sur huit qui est en situation de handicap. Okay. Une femme sur huit, c'est mm-hmm. 13 % des grossesses en Ontario.
Oui, oui, oui. Okay.
Donc, c'est pas une population rarissime comme on peut souvent penser. Mm-hmm. Les professionnels sont fort susceptibles d'accompagner une personne en situation de handicap dans son parcours de grossesse, d'accouchement, de période postpartum. Donc, il faut vraiment que ces chiffres-là, finalement, transparaissent dans l'offre de services qui est offerte oui.
Oui, tout à fait, oui. Puis Marjorie, toi, est-ce que, je veux dire, tu te promenais avec Thomas
oui.
dans les parcs, centres d'achat, etc.? Ouais.
Je faisais tout.
Ah oui, hein?
Ah oui, moi, ouais. je voulais tout faire. oui. Parce que j'avais tellement voulu être maman mm-hmm. que c'était vraiment important pour moi que je sois active et participative dans sa vie.
Mm-hmm.
Alors, je suis allée dans les arénas, le regarder faire du soccer. C'est moi qui allais comme... dans les magasins pour pouvoir comme lui acheter ses vêtements.
Oui.
Puis c'est sûr que dans chacun de ces milieux, eh bien, il y avait des obstacles, des oui. barrières. Alors au début, je faisais des plaintes où ma mère allait me frayer un chemin pour mm-hmm. que je puisse passer. Et à chaque fois, c'était... je parlais en mon nom à moi, mais en sachant que si je le faisais pas, il y avait peut-être d'autres personnes qui auraient de la difficulté à le faire.
Ouais.
Et pour moi, c'était mon droit et j'étais vraiment convaincue de ça. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que de foncer un peu dans le mur ou dans les portes là, pour mm-hmm. qu'elles s'ouvrent. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important. Puis je pense que c'est ça qui m'a amenée aussi à faire d'autres représentations. Il y a quelques années, en anglais, je me suis liée avec d'autres parents en situation de handicap. On a fait certains slams,
mm-hmm.
donc au niveau créatif,
oui.
pour parler de chacun nos histoires positives de parentalité,
mm-hmm.
Parce qu'on avait ce besoin-là d'être représenté, mais de façon positive
voilà, ouais.
et pas négative.
Ouais. Oui, parce que c'est la meilleure façon aussi de devenir un modèle pour d'autres parents aussi.
Oui.
Ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle du désir d'avoir des enfants lorsqu'on est en situation d'handicap. Marjorie, toi, tu avais déjà ton enfant, mais le désir, est-ce que ça doit être quelque chose qui est réfléchi et tout ça, mais j'aimerais ça vous entendre les trois sur ce désir-là. Comment qu'on peut poursuivre son rêve d'être parent?
Bien, c'est sûr, c'est une grande question. Là. C'est sûr, comme on l'a dit plus tôt, il y a beaucoup d'obstacles qui, au travers du parcours de devenir parent, si on parle des personnes qui ont une déficience depuis l'enfance ou depuis la naissance, ils ont beaucoup le discours intériorisé qu'ils ne pourront pas avoir d'enfant.
Mm-hmm.
Alors que pourtant, ben, avec les hormones à l'adolescence, c'est quelque chose qui peut arriver comme à toute autre personne
oui.
de vouloir avoir un enfant. C'est sûr qu'il faut des services parce que nécessairement, les cabinets gynécologiques ne sont pas nécessairement accessibles, oui. Les interventions et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
Oui. Evelina?
Bien, c'est une bonne question. Puis de nos jours encore, les quelques statistiques qui existent, on sait que les taux de grossesse parmi les personnes en situation de handicap
oui.
et les personnes sans handicap sont similaires.
OK.
Donc, ça veut dire que, ben, on peut penser à plein de choses. Est-ce que c'est les avancées sociales et peut-être médicales qui ont contribué à ce que ces taux de grossesse-là soient similaires de nos jours? Est-ce que c'est des mouvements de défense collective de droit? Est-ce que c'est le fait que, justement, bien que les choses changent tranquillement, est-ce que c'est le fait de voir davantage de personnes en situation de handicap assumer ce rôle-là puis de voir ça publiquement? Bref, on peut y réfléchir.
Mm-hmm.
Puis, on disait tout à l'heure, les choses changent tranquillement. Peut-être on voudrait qu'elles changent davantage, mais un exemple, c'est, par exemple, le CHUM est en train de s'organiser. Ils ont créé une nouvelle clinique, situation de handicap et grossesse.
Ah,
et
oui,
ça, okay. c'est nouveau.
Okay.
Je pense qu'il y a une volonté, je pense, dans le milieu pour répondre mieux mm-hmm. aux besoins de ces femmes-là qui songent à fonder une famille, ces femmes-là qui sont enceintes, ces parents en situation de handicap qui le deviennent après une blessure ou après un accident. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des initiatives comme celle-là au niveau clinique qui commencent à s'installer.
À s'installer, oui. Puis Marjorie, toi, je sais que tu es très présente comme conférencière aussi. Tu fais pas mal de TED Talk et tout. Parle-moi de ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes aussi? Tu as des clientes? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé?
Oui, en fait, moi, j'allais rajouter au niveau des réseaux sociaux.
Oui.
Moi, ce que je vois, c'est cette nouvelle génération-là qui me suivent, donc qui ont peut-être 20 ans de moins que moi, mm-hmm. mais qui veulent être parents, qui disent « on a les mêmes droits, on veut », et qui maintenant deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux et qui démontrent et documentent un peu leur parcours pour devenir maman, pour devenir oui. papa, et qui montrent des façons de faire. Et ça, je pense aussi que ça change un peu les perspectives. Mm-hmm. Et ça force un peu le système à se réajuster,
oui,
puisque
oui.
les chiffres reviennent.
Mm-hmm. Puis il y a plus de modèles, donc à ce moment-là, plus d'envie. Est-ce qu'il y a comme un service d'accompagnement pour... lorsque un parent en situation de handicap voudrait faire le choix d'avoir un enfant, est-ce qu'il y a des organismes qui s'occupent de ça, à votre connaissance?
Moi, je dirais la clinique Parents Plus, mm-hmm. Mais généralement... Non, je connais déjà des personnes qui avaient ce désir-là d'être parents mm-hmm. et qui sont allées voir la clinique Parents Plus puis qui ont demandé en amont
oui.
un petit peu comment est-ce que je pourrais faire ça, comment est-ce qu'on peut s'organiser. Les services de réadaptation aussi parlent de sexualité,
oui.
Surtout quand on parle de la sexualité après un accident, donc après une blessure médulaire. Comment est-ce qu'on peut devenir parent physiquement, c'est-à-dire comme faire l'acte qui pourrait amener à une grossesse. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment ces services-là et des discussions. Les professionnels sont généralement très ouvertes
oui.
À nous aider et à nous conseiller là-dessus.
Mm-hmm. Puis, à ce niveau-là, est-ce que la fécondation assistée est de mise dans certains cas?
Dans certains cas, je connais, oui, certaines personnes qui ont utilisé, la fécondation assistée.
Mm-hmm.
Donc, il y a différentes comme procédures comme ça qui peuvent soutenir pour pouvoir amener à une grossesse.
Oui, oui. Mais ça, Marjorie, tu t'en conviens, ce serait un autre sujet de oui. conversation parce que sûrement qu'il y a beaucoup aussi à dire là-dessus. Evelina, je sais que tu as fait une recherche pour l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec. Qu'est-ce qui ressort de cette recherche-là?
Bien, c'est ça. En fait, c'était une recherche financée par l'OPHQ, mais aussi le REPAR, qui oui. est le réseau provincial en adaptation, réadaptation. Puis c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, là. Donc les
D'accord.
cinq grands constats qui ressortaient de cette recherche. Mm-hmm. Donc, j'ai ici avec moi là, quelques citations peut-être qui
oui.
pourraient être intéressantes pour l'auditoire. Donc, par exemple, les participants qui nous partageaient la perception de tomber entre deux chaises.
Oui.
Donc, les services étant souvent en silo, malheureusement, morcelés, destinés vers l'enfant, vers l'adulte, mais pas vers le parent et son enfant. Donc, mm-hmm. cette perception de tomber entre les deux chaises. Une mère qui nous a dit, par exemple, « Il aurait fallu que mon enfant ait un problème, entre guillemets, peu importe le problème, pour qu'il y ait plus de services, mais vu que c'était moi qui avais un problème, j'avais pas recours à aucun service okay. à ce moment-là mm-hmm. Dans l'exercice de sa parentalité. » On a parlé aujourd'hui de parents qui ont une déficience motrice, une déficience
oui.
physique. Dans certains cas, la déficience n'est pas toujours visible.
Mm-hmm.
Parfois, ça peut être langagier, ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être cognitif aussi.
Oui.
Et certains participants nous ont partagé que quand c'est une blessure invisible, par exemple, ben ça peut être encore plus difficile d'obtenir des services. C'est pas toujours clair à quels services ils sont éligibles. Mm-hmm. Parfois, ils se font refuser certains services parce qu'ils sont en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, on assume que le coparent peut assumer, par
oui.
exemple, ces tâches-là. Donc, il y a vraiment une réflexion, je pense, plus profonde à faire aussi sur la place qu'on accorde, la place auquel les personnes en situation de handicap ont mm-hmm. droit. On mm-hmm. l'a mentionné tout à l'heure. La place qu'on leur accorde pour exercer pleinement le rôle de parent comme elles l'entendent,
mm-hmm.
finalement.
Mm-hmm. OK. Puis, Jeannot, dans la mission de Ex Aequo, donc d'amener collectivement vers la défense des droits et tout ça, c'est quelle est la perspective, c'est, si je peux dire, peut-être, qu'est-ce que vous avez amené de positif ou que vous êtes fière d'avoir gagné?
Bien, ça fait seulement depuis 2018 qu'on a ce dossier-là.
Oui.
Donc, comme je disais, c'est sûr que c'est des revendications à long terme.
Mm-hmm.
Mais le fait de s'être allié avec plusieurs partenaires de recherche, de s'être fait connaître dans le milieu, d'avoir créé une table de concertation provinciale pour les parents en situation de handicap, puis vraiment d'être le seul organisme qui fait de la défense collective des droits
ouais.
pour ce dossier-là.
Mm-hmm.
Je pense que ça permet déjà une avancée puis une visibilité dans le milieu communautaire puis même dans le milieu institutionnel. On a des partenariats parfois où on entame la discussion avec des organismes publics. Puis c'est ça, de se faire connaître, je pense que ça contribue à donner lieu à de l'amélioration au niveau social.
Ouais. Retour avec Marjorie Onos, psychologue et chercheure spécialisée en parentalité chez des parents en situation de handicap et également maman en fauteuil roulant. Alors, Evina Pitouch, chercheure postdoctorale et ergothérapeute. Jeannot Radilla, agente de défense collective des droits, porteuse du dossier parents en situation de handicap au sein de l'organisme. Donc, Radilla, j'aimerais ça qu'on parle beaucoup plus maintenant du soutien à domicile.
Oui, bien en fait, au Québec, l'offre de soutien à domicile n'est pas nécessairement pareille dans toutes les régions. Donc, disons à Montréal, il y a beaucoup plus de demandes pour le soutien à domicile.
Oui.
Et puis, les personnes qui sont en situation de handicap peuvent recevoir un certain nombre d'heures là, selon l'évaluation de soutien à domicile.
Mm-hmm.
Mais pour s'occuper de leur enfant, disons, il n'y a pas... T'sais, elles peuvent avoir un nombre d'heures pour, disons, leur bain à elles, préparer la nourriture, mais pour s'occuper de l'enfant, si l'enfant n'est pas en situation de handicap, ces heures-là ne peuvent pas s'appliquer.
Okay.
C'est-à-dire qu'il faut toujours faire affaire à soit des aides privées ou mm-hmm. un réseau familial. Et puis, dans certaines régions, par contre, c'est quelque chose qui se fait. Donc, le soutien au rôle parental qui place, comme Marjorie disait, vraiment le parent au centre.
Mm-hmm.
Fait que c'est au-delà d'une offre de soins. C'est vraiment une offre de collaboration avec le parent pour pallier ses limitations,
mm-hmm.
Mais tout en le plaçant au centre de son rôle, donc en lui laissant la pleine autonomie de ses décisions parentales. Fait que c'est quelque chose qui se fait dans certaines régions puis qu'on aimerait vraiment qu'il s'élargisse au Québec.
Oui. C'est ça. Evelina, tu avais quelque chose à dire?
Bien, je trouve ça d'autant plus étonnant ce que Jeannot vient de nous partager, puis c'est quelque chose que les participants dans l'étude qu'on a mentionnée plus tôt ont également mentionné, c'est-à-dire, puisqu'on avait réuni des parents qui venaient de différentes régions du Québec au sein d'un même groupe de discussion, ils se rendaient compte de la variabilité des services qu'ils ont reçus, oui. Parfois pour des situations de vie similaires. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que, ben, par exemple, au Québec, on a une politique qui s'intitule « Chez soi, le premier choix
mm-hmm. »,
où, justement, les responsabilités parentales ben, sont indiquées comme étant l'une des formes de soutien possibles
oui.
pour soutenir les personnes à domicile. Donc, c'est d'autant plus étonnant de voir qu'il y a encore cette variabilité-là, malheureusement, d'une région à l'autre.
Mm-hmm. OK. Puis on parlera aussi du transport aussi, Janou, que tu nous as mentionné. Il y a une problématique aussi au niveau du transport.
Oui, bien, c'est sûr que les personnes qui utilisent le transport adapté,
oui,
lorsqu'elles ont un enfant, c'est pas toujours super adéquat ou optimal, je devrais dire, mm-hmm, parce qu'il y a le temps d'attente, il y a le transport du matériel, du siège d'auto qui peut pas être fait par nécessairement un parent qui a une déficience motrice, qui peut pas être installé non plus dans le transport adapté par le chauffeur. Fait que souvent, les parents doivent avoir, encore une fois, recours à quelqu'un d'autre de leur entourage, mmh, un accompagnateur, puis ça limite encore l'autonomie quant à leur déplacement.
Oui, oui. On arrive à la fin de l'émission, puis j'aimerais ça maintenant qu'on parle, parce que quand même, pendant tout ce temps, je vous ai écouté, il y a quand même des bons coups, des trucs positifs, comme le département pour parentalité, je crois, Evelina Oshum. Donc, j'aimerais ça qu'on aille là-dessus. Marjorie, que tu sois la première aussi, j'aimerais ça aussi te poser la question. Thomas, qu'est-ce qu'il retient de tout ça, de positif avec une maman en situation d'handicap?
En fait, Thomas, il a intégré le fait que je sois en chaise roulante,
oui,
dans ses jeux et tout ça. Et je dirais que même maintenant, son intérêt vers l'ingénierie, en quelque sorte, donc
oui,
la recherche de solutions,
ouais,
je pense que c'est en lien en partie avec nous. On a toujours été en lien à la recherche de solutions. Alors, mm-hmm, Thomas, il y a comme cette idée-là de trouver des solutions. On ne fait pas face juste aux défis, on essaye de passer à travers.
Ouais.
Donc, lui, l'autre jour, qui est un garçon très, très timide, l'autre jour, il voulait parler à une émission de télévision, puis il est très timide, il ne passera pas à la télévision. Mm-hmm. Mais cela étant dit, quand je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu as accepté de faire ça? Il m'a dit, mais c'est important parce que toi, tu es la meilleure maman du monde.
Oh,
et beau, que j'aurais, ouais, aimé que les parents qui,
ouais,
sont en situation de handicap aient la même chance,
wow,
d'avoir une famille aussi belle que la
mienne. Mm-hmm.
Alors ça, c'est un bon coup, moi,
ouais,
je trouve.
Oui, tout à fait, tout à fait. Evelina, au niveau de la recherche, quel serait le bon coup?
Bien, sans négliger qu'il y a encore beaucoup de besoins qui sont non répondus, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est de voir qu'il y a des acteurs autour de la table qui trouvent que c'est un sujet important. En recherche, on s'allie justement à des partenaires communautaires, à des partenaires cliniques pour justement répondre aux besoins sur le terrain. Peut-être un exemple d'un bon coup,
oui,
concret. Récemment, avec ma superviseure à l'Université de Toronto, Hillary Brown, on s'est allié à la Direction régionale de santé publique de Montréal.
Mm-hmm.
Ils organisent annuellement une journée des professionnels en allaitement. Et cette année,
oui,
avec des collègues de la clinique Parents Plus, on a lancé la conférence d'ouverture et c'était intitulé « Allaiter avec une déficience physique, comprendre pour mieux soutenir ».
Okay.
Et on discutait tout à l'heure que parfois les professionnels sont peut-être moins outillés, ne savent pas exactement comment bien répondre aux besoins de ces familles-là. Eh bien là, il y avait 1300 professionnels inscrits pour la journée. Donc,
wow,
c'est de voir que quand on met cette offre de formation-là, les professionnels sont présents,
mm-hmm,
finalement. Donc.
Mm-hmm. Et Janou, bon coup.
Bien, au-delà de ce que j'ai dit, les collaborations, les concertations, tout ça, je pense que on met vraiment la parole des parents de l'avant, puis ça fait qu'ils s'impliquent enfin dans la société à la hauteur de ce qu'ils voudraient.
OK, OK. Pour terminer, la dernière question à Marjorie. Qu'est-ce que tu dirais à une femme en situation de handicap qui attend un enfant?
Félicitations.
Oh, oui.
Parce que souvent, c'est pas ça qu'on a. Souvent, c'est « Oh non, qu'est-ce que t'as fait? » Alors, ma première réaction, ce serait « Félicitations. Je suis super contente pour toi. Tu vas voir, ça va être tout un défi, un petit peu comme des montagnes russes parfois, mais tellement beau et ça, mm-hmm, va t'apporter énormément. »
Merci. Alors, sous ces paroles d'espoir et de motivation, donc, ça met fin à notre émission. Donc, déjà, je vous remercie parce que vous nous avez éclairé sur le sujet. Donc, je rappelle que mes invités sont Marjorie Onos, psychologue et chercheure spécialisée en parentalité chez des parents en situation de handicap et maman en fauteuil roulant, Evelina Pitouch, chercheure postdoctorale et ergothérapeute, et Janou Radi, Dia, agente de défense collective des droits, porteuse du dossier parents en situation de handicap au sein de l'organisme Execo. Donc, alors, ceci met fin à notre émission. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine. Merci, mesdames.
Merci. We'll be right back.